Germann et Martin Guibernier.
Bonjour tout le monde et bienvenue à notre balado à l'écoute des investisseurs, édition 24 septembre 2025. Bonjour Martin.
Bonjour Sarah, bonjour tout le monde.
Donc Martin, quelles nouvelles financières ont retenu ton attention depuis la semaine dernière?
Bien vraiment, ce qui retient mon attention, c'est que l'ensemble des bourses performe très très bien. On a plusieurs titres qui font des sommets historiques, entre autres les banques canadiennes, BMO, TD, Brookfield Corp a vraiment beaucoup monté aussi, BN, plusieurs clients détiennent ça. Ce qu'on détient un petit peu moins, mais qui retient l'attention au Canada, là, tout le secteur des ressources, entre autres avec les métaux précieux. On parle beaucoup du dollar américain qui perd des plumes, mais il perd des plumes par rapport à d'autres devises, principalement, par exemple, l'euro, le yen, mais aussi une once d'or, c'est tarifé en dollars américains. Donc, quand le dollar américain baisse, la valeur d'une once d'or augmente et tout le secteur. Bon, on sait qu'on a une bourse canadienne fortement exposée, ce secteur-là. Donc, ça monte beaucoup. Ce qui fait que notre TSX est en hausse de 1,7% cette semaine. On est à plus de 20% pour l'année à jour au Canada. Le S&P 500, un peu plus modeste, 0,7%. C'est quand même une hausse de 13% depuis le début de l'année. 9,8 en dollars canadiens. Là. Donc, il y a un aspect devise là, du côté américain qui vient un peu réduire la performance des marchés américains. Le Nasdaq est en hausse de 1,2%. Les Mag 7, là, les 7 magnifiques avec Nvidia, Amazon, Microsoft en tête, là, performent très, très bien. ZEA, donc l'indice MSCI Europe-Australie Extrême-Orient, que plusieurs clients le détiennent là, de plus en plus, 1,1% cette semaine, on est à 19% de rendement année à jour. Les taux d'intérêt ont remonté une petite affaire là, cette semaine, sur les 10 ans aux États-Unis, on était à 4,07, on est à 4,11, donc on dit en anglais là, buy the rumor, sell the news, là, donc on achète la rumeur, on vend la nouvelle, on attendait des baisses de taux, le marché se positionnait en conséquence et quand la baisse de taux est finalement livrée, finalement on passe à d'autres choses, donc les taux ont comme un peu remonté. Même chose au Canada, très marginal, de 3,19 sur les obligations de 10 ans. Le dollar canadien qui a faibli un peu cette semaine là, à 72,1. On était à 72,6 la semaine dernière. Donc, on surveille. On est à quelques semaines de la nouvelle saison des résultats financiers. Les marchés suivent les profits des entreprises. Donc, peu importe qui est le président, si les entreprises font des profits, les marchés devraient continuer de bien performer. Les évaluations sont un peu dispendieuses aux États-Unis, mais ce n'est pas parce que c'est dispendieux que ça va nécessairement baisser. Si la croissance demeure, c'est correct. Là. Et puis, du côté européen, on a quand même des bonnes croissances anticipées avec des évaluations qui sont un petit peu plus raisonnables, d'où la pertinence de demeurer diversifié. C'est toujours le mot d'ordre. Si on aime quelque chose, on en met un peu plus. Si on n'aime pas quelque chose, on en met un peu moins, mais on en met pareil. Donc, c'est ça la diversification.
Bien, merci beaucoup, Martin. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui touche plusieurs de nos clients.
Ouais.
La fiscalité des propriétés locatives.
Oui.
Donc, on en a beaucoup. Hein, à Montréal, c'est quand même quelque chose qui est très fort. Détenir un duplex, un triplex ou autre immeuble à revenus. Donc, c'est important de bien comprendre les règles fiscales par rapport à ce genre de détention et surtout pour éviter des mauvaises surprises.
Ouais.
Donc, voici une question facile pour toi, Martin, et je suis sûre que tout le monde le comprend, mais on va le dire quand même. Est-ce que mes revenus locatifs sont imposés?
Bien sûr, Sarah. Donc, comme tout revenu, c'est imposé comment? Donc, si je perçois des loyers, je m'impose sur les revenus de loyer net comme du revenu d'entreprise, si on veut. Donc, c'est pleinement imposable. Je reçois des loyers, puis bon, on va déduire certaines dépenses, mais c'est imposable. Puis évidemment, si la propriété prend de la valeur au fil du temps, on aura éventuellement un gain en capital. On va rentrer dans plus de détails un peu plus loin, là, mais oui, il y a une certaine fiscalité. Puis même nos clients qui n'en ont pas de locatif, il y en a plein qui nous ont dit « Ah, je devrais-tu pas? » On est toujours pour la diversification, je viens de le mentionner, ça peut faire partie d'un portefeuille diversifié.
Quelles sont les dépenses déductibles qui peuvent réduire le revenu imposable?
Oui, il y a deux types de dépenses, donc les dépenses courantes puis les dépenses en capital. Donc, les dépenses courantes, là, tout ce qui est les si j'ai emprunté, j'ai pris une hypothèque pour acheter l'immeuble, donc les intérêts que je paye sur l'hypothèque seront déductibles d'impôt. La logique, elle est simple. J'achète un bien qui va générer des revenus imposables, donc j'ai le droit de déduire les dépenses qui me permettent d'acquérir ou de maintenir ce bien. Donc, les intérêts, les taxes scolaires, les taxes foncières, les primes d'assurance habitation, les frais de gestion immobilière. Donc, certains vont avoir un parc immobilier, vont engager quelqu'un là pour s'occuper, ou ça peut être les frais de condo, par exemple, si je loue un condo. Réparation et entretien mineur. Donc, on parle de mineur là, c'est si je change la nature de la propriété, ce n'est plus une dépense déductible, ça devient une dépense en capital que je devrais ajouter au coût d'achat du bien. La publicité pour trouver des locataires. Et les honoraires professionnels, comptables, avocats. Donc, pas les frais de notaire au moment de l'achat. Ça s'ajoute au coût d'achat du bien. Mais le frais de comptable pour faire mon rapport d'impôt à chaque année, c'est un frais qui est déductible d'impôt. Quand les gens calculent le rendement de leur placement, bien souvent, ils disent, j'ai acheté l'immeuble X et je l'ai vendu Y, donc j'ai fait un profit. Faut pas oublier qu'on a dépensé de l'argent toutes ces années-là pour le maintenir, là, donc il faut un peu le prendre en considération. Quand j'achète des actions de la Banque Royale, puis je reçois mon dividende, c'est pas vraiment de dépense, hein. J'ai acheté le prix, ça a monté, j'ai reçu mon dividende, c'est simple comme ça. Fait que quand on calcule la performance de notre actif, que ce soit un bien locatif ou une action cotée en bourse, ben, il faut prendre en considération tous les revenus et tous les frais.
Absolument. Et ça, c'est une question que j'ai eue la semaine passée lors d'une analyse testamentaire. Si je commence à louer ma propriété principale, donc il y a changement d'usage, quel est le piège à éviter?
Ben, j'ai acheté une maison, j'y ai vécu pendant 10-15 ans en tant que résidence principale, puis là, ben, je décide que je ne fais plus mon affaire, je vais la louer. Puis, je vais peut-être la refinancer pour acheter un autre bien dans lequel je vais aller demeurer. On a donc un changement d'usage de la propriété. On est réputé avoir vendu la propriété au moment du changement d'usage. Donc, si j'ai fait ce changement-là en 2025, dans l'année 2025, au moment de faire mon rapport d'impôt, je devrais compléter le formulaire désignation d'un bien comme résidence principale dans mon rapport d'impôt fédéral. Ça ne veut pas dire que je paye l'impôt cette année, par exemple. Je peux faire le choix de reporter l'impôt du gain en capital dans l'année où je vais réellement vendre le bien. Si je fais ce choix-là au fédéral, automatiquement le provincial accepte le même choix. Donc, c'est important, là. C'est comme si je me suis vendu à moi-même le bien au même prix à la valeur au marché. Donc, si j'ai accumulé du gain en capital, tant mieux, je suis exempté parce que c'était ma résidence principale. Puis, à partir d'aujourd'hui, la plus-value sera imposable comme étant un gain locatif au niveau du gain en capital. Et donc, j'ai pas d'impôt à payer, là, nécessairement.
Parfait. Et j'aime celle-là parce que souvent, on pose la question aux clients, ils ne sont pas trop sûrs. On dit, est-ce que tu as pris de l'amortissement sur ta propriété? Et aussi l'autre question qui me trouble tout le temps, le FNAC.
La FNAC.
C'est la FNAC, la
La FNAC.
FNAC. Oui.
L'amortissement. Donc, quand j'achète un bien, donc j'ai acheté un quatreplex, mettons, ben j'ai acheté quoi? J'ai acheté un terrain, puis j'ai acheté une bâtisse sur le terrain. C'est deux affaires différentes. Le terrain, bien, il ne se déprécie pas. Le terrain, il ne change pas de nature, il est toujours là dans le temps. Donc, le terrain, la portion du prix qui est le terrain, ce n'est pas amortissable. Par contre, la bâtisse, mettons que je n'y touche jamais la bâtisse, je ne m'en occupe pas. On s'entend qu'à un moment donné, elle va tomber en ruine, puis elle va perdre sa valeur. Donc, le principe de l'amortissement, c'est de venir prendre une perte sur la valeur de l'immeuble du fait du passage du temps, l'immeuble s'use et perd de la valeur. Ça, c'est la théorie. En réalité, la plupart des immeubles prennent de la valeur dans le temps. Puis, tu sais, je fais un petit peu d'entretien à travers tout ça. Donc, l'amortissement, c'est une dépense fiscale qui me permet de venir réduire mes revenus imposables dans l'année où je prends de l'amortissement. La FNAC, c'est un acronyme FNACC pour fraction non amortie du coût en capital. Donc, c'est la portion de la bâtisse que j'ai peut-être pris de l'amortissement au fil des années, ben c'est la portion qui me reste à amortir, qui n'a pas été amortie. Donc, quand je vais vendre le bien, qu'est-ce qui arrive? Donc, on va comparer d'abord le bien au prix d'achat. Je l'ai acheté 500 000, je l'ai vendu 600 000, j'ai 100 000 piastres de gain en capital. Par contre, j'ai peut-être pris de l'amortissement. Donc, je l'ai acheté 500 000, puis au fil des années, j'ai pris à chaque année quelques milliers de dollars d'amortissement, puis là, ben, ma FNAC est rendue à 400 000. Donc, j'ai vendu, je l'ai payé 500, je l'ai vendu 600, mais ma FNAC est 400 000. Donc, je vais avoir 100 000 $ de gain en capital, qui est l'excédent du prix d'achat, mais je vais aussi avoir un autre 100 000 de récupération d'amortissement. Donc, tout l'amortissement que j'aurais pris au fil des années, qui était une perte de valeur de l'immeuble, cette perte-là n'a pas été réelle. Donc, je viens me retaxer sur la totalité du montant que j'ai déduit dans les années précédentes, dans la même année. Bien souvent, ça crée une facture fiscale astronomique. La majorité des détenteurs immobiliers, là, tu sais, monsieur, madame, tout le monde qui a trois, quatre portes, là, prennent pas d'amortissement, justement, parce que quand ils vont vendre le bien, on prend de l'amortissement à un taux souvent marginal qui est, mettons, 35, 40, 45 %. Mais quand je vais le vendre, j'ai le gain en capital plus la récupération d'amortissement, je vais probablement être à 54 % d'impôt. Alors, bien souvent, les comptables vont recommander de ne pas prendre d'amortissement pour, tu sais, monsieur, madame, tout le monde, là. Un propriétaire immobilier qui a 500 portes dans une compagnie de gestion, c'est une autre affaire. C'est au-delà de nos compétences. On va laisser les comptables et les fiscalistes jouer là-dedans. Pour la majorité des gens qui nous écoutent, ils ont, tu sais, deux, trois, quatre, cinq portes. Souvent, l'amortissement, là, les comptables n'en prennent pas, puis c'est probablement une bonne affaire.
Oui, c'est ça qu'on voit la plupart du temps quand on pose la question puis on fouille un peu dans les rapports d'impôts des clients. Qu'est-ce qui arrive si je vends ma propriété locative? Est-ce que je peux faire une distinction entre une propriété locative propriétaire occupant ou une propriété locative non occupant?
Oui, donc là, on parle de, par exemple, un plex sur le plateau. Là, j'ai un triplex, je vis en haut, je loue deux autres appartements. Donc, il va y avoir, au niveau de l'occupation, au moment de l'achat, là, ça va être déterminé, ben, quelle superficie est-ce que j'occupe dans le plex. C'est pas parce qu'il y a trois logements puis j'en occupe un que c'est forcément un tiers. Ça se peut que mon logement soit la moitié de l'immeuble puis l'autre moitié soit séparé en deux locatifs. Donc, la portion que j'occupe, je serai effectivement exempté du gain en capital. Donc, je revends mon plex, j'ai 100 000 de gain en capital, j'occupais 50 % de la superficie, donc 50 000 est complètement exempté du gain en tant que résidence principale. L'autre 50 000, c'est mon gain brut en capital. Puis là, ben, on sait qu'un gain en capital, la moitié est inclus dans mon revenu pour être imposé. Donc, c'est très important là, de bien calculer. Puis là, on ne peut pas. On a déduit des dépenses, donc au fil du temps, je suis propriétaire occupant, j'occupe la moitié de l'immeuble, donc j'ai mes taxes municipales, ben, je déduis la moitié, les frais d'entretien, tout est à la moitié. Ben, au moment que je le vends, je ne peux pas décider que c'est un tiers soudainement. C'est toujours le même pourcentage là, qui s'applique
Puis, on
évidemment.
a eu cette question-là aussi la semaine passée avec une cliente parce qu'on discutait réellement de ses propriétés locatives et à quel pourcentage elle l'occupait. Puis, la question était, ben, comment qu'il détermine? Parce que souvent, on le donne ça à un comptable, puis le comptable le calcule, mais ben, il détermine vraiment par la superficie
La
que
superficie qui est
j'occupe.
occupée, exactement, tout
Parfait.
simplement.
Ben, merci beaucoup, Martin. Je pense qu'on frôle le sujet. On peut y parler longtemps. Il y a souvent la question, est-ce que je devrais mettre ma propriété locative dans une compagnie ou non?
C'est à peu près 99,9 % du temps, non, la réponse. Fait
C'est
que
ça.
ça dépend, c'est pas 100 %, mais c'est très rare que c'est une bonne idée.
C'est ça. Donc, on peut vous aider avec cette question-là, mais on l'a beaucoup moins aussi. Je trouve que les gens ont plus compris cet
Ouais,
aspect-là.
surtout depuis que l'année passée, on a eu le petit épisode de changement de taux d'inclusion du gain en capital. Là, soudainement, on s'est rendu compte que oh, peut-être si ça revient, cet épisode-là, c'est peut-être une moins bonne idée d'avoir ça dans une compagnie.
C'est ça, exactement. Ben, merci Martin. L'immobilier locatif est un excellent levier de création de richesses, mais il faut vraiment bien comprendre les règles fiscales pour en tirer le maximum. Consultez votre comptable. On peut vous aider aussi à optimiser votre situation. Faites-nous signe. Merci encore Martin, à nos clients et partenaires. Si vous avez des questions sur les sujets ou le sujet abordé aujourd'hui ou sur vos objectifs financiers, personnel, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Mathieu, Michel, Martin et moi sommes toujours disponibles pour vous accompagner. Merci pour votre écoute cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À l'écoute des investisseurs.